Très bon réveil à tous. On débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des jeux d'équilibristes à la une ce matin avec Donald Trump. Tout d'abord, le président sortant aux États-Unis accepte de lancer la transition avec Joe Biden, mais il promet de se battre encore sur le plan juridique. Lancer la transition, ce qui se rapproche le plus d'un aveu de défaite pour Donald Trump, alors que le président démocrate élu s'entoure de poids lourds de l'administration Obama pour relancer l'économie, les relations diplomatiques et la lutte pour le climat.
En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle d'images choquantes après l'évacuation de plusieurs centaines de migrants hier soir, place de la République à Paris.
Gérald Darmanin demande même un rapport au préfet de police. Des élus et des associations en profitent pour souligner l'importance de filmer des violences policières, alors que la loi sur la sécurité globale doit être votée cet après-midi à l'Assemblée.
Et puis à la une encore, pas de déconfinement, mais un léger assouplissement du confinement.
Jean Castex prépare les esprits avant la prise de parole ce soir d'Emmanuel Macron. La crise sanitaire et économique n'est pas finie. Les bars et restaurants pourraient, eux, faire une croix sur les fêtes de fin d'année. En attendant, ils se débattent avec leurs assureurs, comme le chef étoilé Jean-François Piège, vous l'entendrez.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, on va évoquer un syndicat lycéen qui est aujourd'hui au cœur d'une polémique. Avenir lycéen, nous serons en compagnie de la journaliste à Libération, Marie Picmal.
C'est presque à reculons que Donald Trump s'approche d'une reconnaissance de sa défaite à la présidentielle. 3 semaines après l'élection, 2 semaines presque après la proclamation des résultats, il a demandé à son équipe hier soir, par 2 tweets laconiques, de lancer la transition dans l'intérêt du pays. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour.
Vous êtes à New York pour France Culture, où vous suivez donc l'épilogue interminable de cette présidentielle américaine, où Donald Trump a été contraint hier de suivre Emily Murphy à la tête de l'agence qui supervise la transition.
Oui, c'est la première reconnaissance officielle de l'équipe Trump que Biden a gagné l'élection, mais elle est faite presque sous la contrainte et presque à moitié, puisque Trump s'est exprimé en fait sur Twitter après Emily Murphy, la responsable de cette administration des services généraux, quand il a su qu'elle avait signé le courrier qui lance officiellement le processus. Alors la fonctionnaire républicaine nommée par Trump il y a 3 ans assure qu'elle n'a reçu aucune pression, dans la lettre qu'elle adresse d'ailleurs à Monsieur Biden et pas au président élu. Elle écrit qu'elle prend sa décision au regard des derniers développements locaux, notamment le Michigan, qui vient de valider ses résultats en faveur de Biden. Et puis Trump, lui, la remercie dans ses tweets. Il dit que c'est lui qui lui a demandé de lancer la transition dans l'intérêt du pays. Mais il ne reconnaît pas la victoire de Biden. Il promet de poursuivre ce qu'il appelle un juste combat. Et il dit « je crois que nous l'emporterons ». Les recours en justice, pourtant, sont retoqués les uns après les autres.
Et que va-t-il se passer, Sébastien, maintenant que l'administration des services généraux a lancé la transition ?
Eh bien, ce courrier de la GSA reconnaît Joe Biden comme le président élu, même si, encore une fois, le titre n'y figure pas. Et puis la suite, eh bien, elle est aussi dans la lettre. De l'argent d'abord, plus de 6 millions de dollars de fonds de transition financés par le contribuable qui sont débloqués, des bureaux, et puis un accès, enfin, aux agences gouvernementales et à des réunions pour avoir certains renseignements confidentiels. Bref, les deux équipes vont se parler. Le camp Biden salue une étape nécessaire qui permet un transfert du pouvoir pacifique pour commencer à relever les défis, écrit Biden, maîtriser la pandémie et remettre l'économie sur les rails.
Et pour mener à bien cette politique et préparer son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier, le démocrate a dévoilé hier plusieurs noms pour sa future administration et l'on retrouve à des postes clés plusieurs personnalités chevronnées qui ont servi sous Barack Obama. Leur mission, Sébastien, remettre le climat et les relations internationales multilatérales à l'agenda des États-Unis.
John Kerry est le dernier secrétaire d'État de Barack Obama et c'est lui qui a signé l'accord de Paris sur le climat en 2015 pour les États-Unis. Joe Biden, qui veut réintégrer le texte, en fait à 76 ans son représentant spécial pour le climat. Autre ancien de l'équipe Obama, Anthony Blinken, numéro 2 de la diplomatie américaine à l'époque, qui en devient numéro 1. Il est sur la célèbre photo de mai 2011 à la Maison Blanche pendant l'assaut contre Ben Laden au Pakistan. À la tête de la sécurité nationale, c'est une première, un hispanique, un avocat d'origine cubaine, Alejandro Mayorkas, ancien secrétaire adjoint de ce département, et puis 2 femmes à des postes clés. Une afro-américaine à une des fonctions diplomatiques les plus en vue du gouvernement, Linda Thomas-Greenfield, sera ambassadrice aux Nations Unies. C'est l'ancienne Madame Afrique de Barack Obama. Une femme enfin à l'économie, Janet Yellen, ancienne patronne de la Réserve fédérale, c'était déjà une première. Elle devrait être nommée secrétaire au Trésor. Et si cette nomination est confirmée, ce sera là encore une première en 231 ans d'histoire.
Sébastien Paour à New York pour France Culture. Merci pour cette analyse complète.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, à peine montée et déjà démantelée. 450 tentes installées par des exilés et des militants associatifs ont été évacuées par les forces de l'ordre. Image choquante, reconnaît Gérald Darmanin.
Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport au préfet de police sur cette opération menée hier soir, place de la République à Paris. Des migrants, mais aussi celles et ceux qui les accompagnent, des élus et des avocats disent avoir été bousculés, frappés par les forces de l'ordre, comme Reza Jafari. Il préside l'association Enfants d'Afghanistan. Il défend les réfugiés évacués la semaine dernière du camp de Saint-Denis au nord de Paris. Plus d'un millier d'entre eux, principalement des Érythréens, des Somaliens et des Afghans, n'ont eu aucune proposition de logement et ils errent depuis une semaine dans la capitale. Reza Jafari est outré de la violence des forces de l'ordre contre ces migrants.
Depuis une semaine, tous les matins, tous les soirs, tous les midis, tout le temps, dès qu'on s'installe quelque part avec les réfugiés, alors la police a des caméras partout. Ils arrivent en 5 minutes. Ils nous gazent, ils nous frappent et ils nous traitent de terroristes. Ce soir, j'ai pris plein de coups de tout. Ils m'ont donné des coups de pied, ils m'ont donné des coups de bâton, des coups de tout. J'ai les doigts blessés, je suis blessé depuis une semaine. Mais je ne peux pas dormir chez moi. Je ne peux pas. Parce qu'il y a des réfugiés de partout qui sont là. Je suis arrivé il y a 11 ans, mais je n'ai pas connu cette France-là.
Reza Jafari, président de l'association Enfants d'Afghanistan, au micro de Mathilde Vinceneux. Des journalistes comme Rémi Buisine, qui travaille pour Brut, disent aussi avoir été frappés par les forces de l'ordre. Ils soulignent l'importance de filmer ces scènes alors que l'Assemblée nationale doit voter cet après-midi la proposition de loi controversée sur la sécurité globale qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des policiers. Les détracteurs de ce texte le qualifient de liberticide. 7h07 sur France Culture, alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer ce soir à 20h, un assouplissement du confinement. Où en est la situation épidémique en France? Santé publique recensait hier soir 4500 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures. Moins de 5000 cas donc recensés. C'est un chiffre symbolique pour Emmanuel Macron. Un chiffre bas, inédit depuis le mois d'août, mais un chiffre en trompe-l'œil, Solène Lehen.
Ah, on aimerait y croire. Moins de 5000 nouvelles contaminations annoncées hier soir par Santé publique France. Moins de 5000, c'était l'objectif qu'avait fixé Emmanuel Macron pour débuter un déconfinement dans de bonnes conditions sanitaires. Sauf que ces 4500 nouvelles contaminations, ce sont des chiffres recensés dimanche. Et le problème, c'est que le dimanche, les laboratoires d'analyse sont fermés, les hôpitaux ne font pas remonter tous leurs résultats. Et donc les chiffres du dimanche sont faussés, ne reflètent pas la réalité de l'épidémie. La veille, par exemple, samedi, on comptait trois fois plus de contaminations. Malgré tout, si on lisse les résultats sur une semaine entière, tous les indicateurs sont encourageants. Le pic de la deuxième vague est passé et les épidémiologistes constatent une baisse des contaminations, des hospitalisations et du nombre de malades en réanimation. Pour autant, les courbes sont encore hautes. Hier, par exemple, on comptait 500 nouveaux décès, plus de 30 000 malades encore hospitalisés, dont 4500 dans un état grave et soignés en réanimation.
Les annonces d'Emmanuel Macron ce soir sur la crise sanitaire et ses enjeux économiques sont attendues notamment par les commerçants qui ont dû baisser le rideau. Le Premier ministre a indiqué récemment qu'il pourrait rouvrir autour du 1er décembre pour les bars et les restaurants. En revanche, il faudra encore patienter. On parle plutôt de l'année prochaine même, ce qui signifierait pour eux faire une croix sur les fêtes de fin d'année qui représentent une part importante de leur chiffre d'affaires. En attendant d'avoir plus de visibilité, les restaurateurs se débattent avec leurs assureurs. Et ils tentent de trouver des parades à leur jumée.
Il y a une dizaine de jours, le chef étoilé Jean-François Piège reçoit une lettre de résiliation de la part de son assureur AXA. Raison invoquée, son refus de signer les conditions de renouvellement de son contrat. Sur les réseaux sociaux, le chef dénonce la méthode.
L'avenant, il prévoit clairement que je ne suis plus assuré pour des fermetures administratives. Donc moi, je n'ai pas signé l'avenant, parce que moi, je suis allé voir AXA pour avoir cette couverture-là. Et aujourd'hui que j'ai besoin de sa couverture, il refuse de m'indemniser.
Alors AXA a répondu par presse interposée. C'est bien la première fois qu'on reproche aux assureurs de vouloir être plus clair, s'insurge la compagnie. Une clarification qui permet au passage d'éviter des interprétations du juge et donc de perdre des procès. Mais quelles solutions ont désormais les restaurateurs? Car le cas de Jean-François Piège est loin d'être isolé. Eh bien, la profession tente de bâtir un contrat sur mesure, comme nous l'explique Laurent Barthélémy, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration en Nouvelle-Aquitaine.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une sorte d'assurance sous marque blanche avec un appel d'offres, donc les garanties qui seront celles que nous avons négociées et demandées. On va encourager effectivement l'ensemble de nos adhérents à aller vers cette assurance-là.
Des discussions sont en cours avec une compagnie. Objectif, aboutir dans le le courant de l'année prochaine. En parallèle, les assureurs discutent avec Bercy d'un risque pandémie sur le modèle de celui des catastrophes naturelles. La Fédération française de l'assurance a fait des propositions, mais sa présidente prévient déjà, ce nouveau régime ne couvrira pas la pandémie de Covid-19, car, dit-elle, on n'assure pas une maison qui brûle.
Malmené également par la pandémie de Covid, Danone annonce supprimer jusqu'à 2000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger afin de simplifier son organisation, mais aussi de renouer avec la croissance et augmenter sa rentabilité. Il se donne rendez-vous de nouveau à 10h30 ce matin. Patronat et syndicats ont décidé de suspendre la négociation sur le télétravail après 8 heures de discussions serrées hier, des discussions qui n'ont pas abouti à un accord national interprofessionnel. Aujourd'hui, devant un tribunal russe, un spécialiste de l'histoire du goulag, Yuri Dmitriev, risque 13 ans de prison, officiellement pour violence sexuelle sur enfant. En réalité, l'intéressé et ses soutiens dénoncent une machination destinée à l'obliger à mettre fin à ses recherches sur les victimes de la terreur stalinienne. Les précisions à Moscou de Claude Bruyot.
Pendant 30 ans, Yuri Dmitriev a arpenté les forêts de Carélie, près de la frontière avec la Finlande, à la recherche de traces de victimes du goulag. Il est d'abord soutenu par les autorités locales, notamment lorsqu'il parvient à mettre en évidence Sandermorsk, site où furent exécutées 6000 personnes en 1937 et 1938, durant la terreur stalinienne. Après avoir réussi à transformer le lieu en mémorial, où viennent se recueillir des familles de victimes, Dmitriev, âgé aujourd'hui de 64 ans, est sommé de cesser ses travaux et surtout de stopper les invitations à l'attention de délégations étrangères, notamment ukrainiennes, après l'annexion de la Crimée et le conflit dans le Donbass. Mais l'historien du goulag refuse et se voit alors accusé de pédopornographie pour avoir pris des photos de sa fille adoptive, victime de rachitisme. Dmitriev assure, lui, qu'il voulait simplement documenter l'évolution de son handicap. De relax en appel et contre-appel, et après plus de 2 ans au total de détention préventive, il risque maintenant 13 ans de camp à régime sévère, malgré le soutien de Memorial, l'ONG qui rappelle régulièrement combien le pouvoir russe aujourd'hui encore éprouve de difficultés à regarder en face les heures sombres du stalinisme.
C'est la première mission du genre depuis celle menée par l'ex-URSS en 1976. La Chine a lancé aujourd'hui vers la Lune une sonde destinée à collecter des échantillons de roches et les ramener sur Terre. L'occasion aussi pour Pékin de tester de nouvelles technologies cruciales pour envoyer des astronautes sur l'astre lunaire d'ici 2030. Le temps de ce mardi 24 novembre, souvent gris ce matin dans la moitié nord du pays, de plus en plus ensoleillé en revanche dans la moitié sud. Les températures sont encore fraîches ce matin, comprise entre moins 2 et 5 degrés dans les terres, 4 à 10 près de la mer, Guillaume Hermier.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, on va évoquer un étrange syndicat, Avenir Lycéen, 7h13 sur France Culture.